nouvel épisode aujourd'hui, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai un invité un petit peu particulier. Il s'agit d'un formateur en hypnose thérapeutique ericksonienne. Il est également président de l'Académie de recherche et de connaissances en hypnose ericksonienne, donc l'ARCH. Donc il s'appelle Kevin Finel. Bonjour Kevin.
Bonjour Théo et bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Donc aujourd'hui, on aimerait parler ensemble un petit peu de l'hypnose et du sport, parce que c'est quelque chose qui n'est pas trop connu dans notre domaine, enfin surtout le domaine de la musculation, où il n'y a pas trop de compétition et tout ça. Donc on a un petit peu un regard, enfin on a beaucoup de préjugés sur l'hypnose. Donc est-ce que Kevin, tu pourrais nous parler un petit peu de l'hypnose que toi tu pratiques?
Oui, bien sûr. Alors, c'est un domaine qui est assez vaste, mais déjà, peut-être qu'on peut démystifier un petit peu le mot. Comme tu dis, parfois, c'est un mot un peu étrange et qui suscite quelques réactions, surtout à cause des spectacles qu'on voit parfois à la télévision. En fait, l'hypnose, c'est quelque chose qui est très simple et très naturel. C'est tout ce qui joue sur la modification de nos états de conscience. On a un état de conscience qui fluctue. Parfois, on est dans la rêverie. Parfois, carrément, on est dans le sommeil. Il y a des moments où on va être plus ou moins concentré, plus ou moins présent. Et un hypnotiseur, c'est quelqu'un qui sait comment nous faire passer d'un état à un autre. Et il se trouve qu'il y a certains états, qu'on appelle les états hypnotiques, qui nous permettent d'accéder à des capacités qui sont d'habitude pas faciles d'accès. Je pense à la créativité, à des capacités de changement, à des capacités d'apprentissage. Et c'est pour ça que c'est une technique qui est très utilisée en accompagnement. Alors tu évoquais la thérapie. En fait, l'hypnose, je pense pas que c'est une thérapie à part entière. C'est plutôt un moyen de mieux comprendre comment on fonctionne. Ça nous permet de mieux comprendre notre cerveau, en fait, si on veut dire ça simplement. On a un cerveau qui fait des choses assez extraordinaires. On n'apprend pas vraiment à nous en servir dans la vie de tous les jours, mais l'hypnose, c'est un moyen d'accès à ces ressources-là et un moyen de compréhension de nos fonctionnements. Donc, ça peut avoir des applications en thérapie, mais aussi en coaching, par exemple.
D'accord, donc finalement, c'est une technique d'optimisation, finalement.
Oui, on pourrait dire ça, de connaissance de soi, d'optimisation, d'élargissement des compétences et des capacités. C'est vraiment un outil de développement personnel qui est assez vaste.
D'accord. Et par rapport à tout ça, est-ce que toi, tu vois des nouvelles découvertes? Parce que nous, on est un petit peu, enfin, je vais dire en France, par rapport aux gens qui me suivent un petit peu sur mes réseaux et tout ça, ils ont une approche de l'hypnose, tu sais, qui est très, voilà, spectacle. Et
Oui.
est-ce qu'il y a des découvertes, quelque chose de plus concret? Parce qu'ils aiment bien, tu sais, rationaliser les choses un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous apporter un petit peu de concret là-dessus par rapport à tes découvertes récentes?
Écoute, il y aurait beaucoup de choses à dire. On est dans une époque qui est assez formidable parce que c'est l'essor des neurosciences depuis quelques dizaines d'années qui permet énormément de compréhension sur le fonctionnement humain, mais aussi dans le domaine de la psychologie sociale et de la psychologie cognitive. Il y a beaucoup d'études qui sont faites. C'est vrai que c'est toujours une question que les gens se posent. Est-ce que l'hypnose est prouvée, par exemple? Il y a aujourd'hui beaucoup d'études qui ont été faites sur l'hypnose, plus de 13 000 études qui ont été publiées dans des revues à comité de lecture, donc des revues voilà, sérieuses, scientifiques, sur plein de sujets. Alors pour les gens qui s'intéressent, il y a des sites hein, qui regroupent toutes ces études-là, notamment PubMed, publication médicale, PubMed, c'est un des sites que moi j'utilise pour être tenu un peu au courant des découvertes.
On s'en sert beaucoup, nous aussi.
Ouais, voilà, si on tape hypnose dedans, puis après avec quelques mots-clés, on a des choses qui sont assez intéressantes. Après, c'est toujours un domaine qui est assez délicat parce que ce qui est mesuré souvent, c'est l'impact de l'hypnose, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on sait ce qu'est exactement l'hypnose. Il y a encore beaucoup de questions autour de l'hypnose. Est-ce que c'est un état? Est-ce que c'est un phénomène psychologique? Il y a encore plusieurs théories sur ça, mais comme dans beaucoup de domaines scientifiques, hein, finalement, des théories parfois qui s'opposent, qui se contredisent, mais c'est aussi ça qui fait évoluer la pratique. Notamment, alors il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur la douleur qui montrent que l'hypnose permet d'anesthésier. C'est le domaine aujourd'hui le plus connu, le plus recherché. Je crois qu'il y a plus de 4 000 études sur ce sujet-là spécifiquement. Et là, on sait que dans les hôpitaux, c'est très utilisé aujourd'hui. On commence à proposer aux personnes de remplacer l'anesthésie en chimique par une séance d'hypnose. Là, on est très loin du spectacle, même si en fait le phénomène peut être comparable hein, au niveau de ce qui se passe. La méthode, elle est très différente, mais surtout, on n'est pas dans l'idée de divertir, on est vraiment dans l'idée d'apprendre à quelqu'un à gérer sa douleur. Donc, c'est travailler en opération, mais aussi pour des douleurs chroniques, par exemple. Voilà. Puis après, sur un sujet qui nous intéresse plus là, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur la transformation des comportements avec l'hypnose. Alors, elles ont été faites parfois sur les compulsions, la cigarette, les compulsions alimentaires et tout ça. Mais le rapprochement, il peut être fait avec tous les autres comportements. Quand on travaille sur la récupération, quand on travaille, il y a des personnes qui ont fait pas mal de recherches aussi sur l'hypnose en rééducation. Donc là, c'est passionnant aussi sur le rapport au corps, sur la manière dont on va aider le corps à mieux se réparer, à mieux reprendre confiance. Là-dessus, il y a beaucoup de choses aussi qui ont été trouvées. Et puis, si je reviens au domaine strict des neurosciences, on commence un peu mieux à savoir ce qui se passe dans le cerveau. Alors, contrairement à ce qu'on trouve parfois sur Internet, on n'a pas prouvé l'état d'hypnose. C'est-à-dire qu'on n'a pas... On pensait à une époque que l'imagerie cérébrale nous permettrait de valider les états de conscience de cette façon-là. Il se trouve que ce n'est pas le cas, ou que c'est un peu plus compliqué que ça, en tout cas. On ne peut pas dire aujourd'hui que c'est validé. Mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des réactions chimiques du corps sous hypnose. Ce qui reste encore un petit peu étonnant, c'est qu'elles ne sont pas toujours les mêmes pour tout le monde. Il semble que l'état soit un peu subjectif.
D'accord.
Mais voilà, après, ça le rend passionnant aussi de savoir que tout le monde ne vit pas exactement le même état, que ce n'est pas les mêmes réactions dans le corps. Ça montre simplement que l'humain est assez varié, assez diversifié. C'est plutôt encore des sujets d'études à développer à l'avenir, tout ça.
Mais c'est intéressant parce que finalement, ce que je comprends de tout ça, c'est qu'on arrive à avoir beaucoup de résultats avec l'hypnose, mais on n'arrive pas encore à expliquer ce qui se passe pendant. En fait, le chemin, on ne sait pas l'expliquer trop, ce qui se passe pendant l'hypnose, mais par contre, le résultat, c'est souvent du concret. Donc, soit la personne
Exactement.
Va mieux, soit, comme tu dis, la chimie au niveau du corps s'est modifiée et tout. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça ressemble à plein d'autres découvertes scientifiques qu'il y a pu avoir dans d'autres domaines. C'est qu'on avait le résultat et on a cherché à comprendre comment ça se passait finalement.
C'est exactement ça. Alors, on a quand même quelques idées. Il y a en tout cas des hypothèses qui commencent à être assez prises au sérieux. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore forcément tous les outils pour comprendre le cerveau. Et là, je pense que dans les prochaines dizaines d'années, on aura sans doute encore plus de réponses, mais c'est encore un domaine qui est un peu, ouais, c'est un domaine qui a exploré encore.
Ouais, c'est super intéressant. Bon, on va parler un petit peu du sportif parce que là, tu as fait une bonne transition en parlant un petit peu de rééducation, de récupération. Et je pense que c'est quelque chose qui nous touche tous les sportifs, c'est que voilà, il y a des moments où on a besoin d'être aidé. Je pense par exemple à un cas classique, c'est une personne qui a pu avoir un très bon niveau. Qui peut se blesser et ben après, elle cherche à récupérer ce bon niveau et on sait que c'est très, très difficile. Et je pense que certainement que l'hypnose pourrait aider à dépasser un petit peu des croyances ou des peurs de se reblesser, tout ça. Donc, on va parler de ça. Donc, pour toi, comment l'hypnose peut aider le sportif?
En fait, si on parle de ça, le principal problème en général, c'est exactement ce que tu dis, c'est la peur ou la croyance. Quand on vit un passage un peu difficile, notre inconscient, il va engrammer une peur, il va intégrer une peur à l'intérieur la plupart du temps. C'est un phénomène qui est assez naturel, qui est même une protection. Hein, ça nous évite a priori de refaire les mêmes erreurs, ça nous permet d'avoir des barrières. Le problème, c'est que parfois, ces barrières-là, elles deviennent un handicap quand elles sont trop fortes. Si par exemple, je me suis blessé, après, mon corps risque de vouloir éviter les mêmes gestes, les mêmes mouvements. Donc, je vais avoir des zones de tension, donc des zones de peur. Et évidemment, j'aggrave le risque en plus de blessures en faisant ça. L'idée, c'est que quand on essaie de contrôler ça consciemment, on est un peu démuni parce que tout ça se passe pas du tout à un niveau conscient et notre pensée elle a très peu d'action sur les mécanismes réflexes du corps. Mais sous hypnose, on dépasse un peu cette barrière-là. C'est-à-dire que quelqu'un sous hypnose va pouvoir aller derrière l'émotion, aller vraiment trouver ce qui se passe à un niveau inconscient derrière l'émotion, quel est le besoin de protection, quelle est l'utilité de cette peur. Et en travaillant dessus, il va permettre d'atténuer la surréaction de l'inconscient, la surcompensation de l'inconscient. Donc on a un travail qui peut être assez précis et assez efficace sur ces sujets-là. D'accord. Et puis sur le domaine de la croyance, on est vraiment dans les représentations mentales. Quand je suis dans une activité, qu'est-ce que j'imagine, qu'est-ce que je me raconte? Et là aussi, on est dans du fonctionnement de routine, donc quelque chose sur lequel le conscient a très peu d'action. Et là encore, on va faire un travail qui est assez similaire, on va essayer de trouver ce qu'il y a derrière ça, et puis on va essayer de nettoyer. Et c'est vrai que sous hypnose, on a un boulevard qui s'ouvre pour pouvoir mieux agir sur ces domaines-là.
D'accord. Donc, par exemple, pour une compétition, pour préparer une personne qui est très anxieuse par rapport à une compétition, l'hypnose peut être un outil assez puissant.
Oui, tout à fait. Oui. Ce qu'on va faire souvent, c'est essayer de comprendre d'où vient ce stress, d'où vient cette peur. Soit elle trouve sa place dans d'autres domaines. Parfois, il y a des peurs comme ça qui se transposent d'un domaine à l'autre. Donc là, on va faire un travail avec la personne sur voilà, peut-être quelque chose qui va être d'ordre un peu plus thérapeutique, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'est-ce qui allait déprogrammer des peurs assez anciennes, parfois qui peuvent remonter très loin. Ou alors, est-ce que la peur est juste liée à la situation? Et là, on va plutôt travailler vraiment sur la prise en compte de l'information par l'inconscient. Quel est le facteur ou les facteurs qui viennent créer de la peur? Est-ce que c'est la pression que la personne se met? Est-ce que c'est le regard extérieur? Est-ce qu'il y a un besoin derrière cette peur? Et là aussi, on va essayer de trouver les comportements qui sont derrière.
D'accord. Et tout à l'heure, tu nous parlais aussi des modifications au niveau de la chimie du corps. Et nous, on sait en tant que sportif que dans le corps, au niveau quand on a beaucoup de stress par rapport à un rythme d'entraînement trop élevé, des régimes, etc., on a beaucoup de cortisol, on sécrète beaucoup de cortisol et l'hormone du stress pour ceux qui ne connaissent pas. Et est-ce que l'hypnose a montré qu'elle pouvait avoir une action sur la production de cortisol, sur cette hormone du stress?
Il y a différentes choses qui ont été mesurées au niveau des hormones, mais déjà, même sans parler d'hypnose, un simple état mental différent agit sur les hormones. L'hypnose, c'est un amplificateur, on pourrait dire. Le problème, c'est que si par exemple on apprend à quelqu'un un exercice mental pour se détendre, ça va avoir une action, hein, sur ses hormones, mais est-ce qu'il sera capable de faire cet exercice-là le jour d'une compétition? La plupart du temps, c'est ça qui est très difficile, c'est que quand on est dans le stress, faire baisser le niveau de stress, c'est quelque chose qui... c'est un chemin qui est plein d'embûches parce qu'on n'a pas la disposition mentale pour ça, on n'a pas forcément les bonnes capacités de concentration. L'exercice marche très bien quand on est seul chez soi, mais le jour où il y a une grande tension, c'est compliqué. Donc, ce qu'on va faire avec l'hypnose, c'est qu'on va enregistrer un exercice mental qui convient à quelqu'un, on va le construire avec la personne. On sait à ce moment-là qu'il y a une réaction sur la chimie du corps et notamment au niveau hormonal, mais surtout, ce qu'on va faire en sorte, c'est que cet exercice, il se recrée par lui-même, tout seul, sans l'opération du conscient, qui risque d'être gêné par la pression. Donc là, on a quelque chose qui va venir s'automatiser.
C'est plus ou moins un ancrage, c'est ça?
On peut parler d'ancrage, on va même un peu plus loin, on parle de suggestion post-hypnotique, c'est vraiment comme une information qui va se déclencher à un moment précis dans le corps, mais sans avoir besoin d'être stimulé par le conscient. Tu sais, on voit ça dans beaucoup de comportements, en fait, la plupart du temps, c'est très facile de changer sur le papier. Tu sais, c'est comme si quelqu'un nous prescrit un régime, c'est très facile de se dire « je vais suivre ce régime-là », mais devant l'action, on va être pris par une émotion, par une angoisse, par une peur. Et là, notre conscient, il est démuni finalement. Il est incapable de dépasser ça, ou alors il va le faire une fois ou deux. Mais c'est sur la durée que ça va être plus compliqué. Quand l'hypnose a trouvé le bon comportement, elle permet vraiment cette automatisation. Comme la plupart de nos comportements, en fait, sont automatisés. La plupart du temps, on ne pense pas en faisant les choses, on les fait naturellement. Et comme ces comportements-là sont plutôt positifs, ben, ça ne nous pose pas vraiment question. Quand un comportement est négatif, c'est là qu'on veut le changer, mais il y a besoin pour qu'il soit vraiment durable, qu'il soit aussi automatique qu'un autre.
Donc
Donc,
finalement, ça reviendrait à comme programmer comme la respiration, on dit que c'est un petit peu inconscient, enfin que c'est l'inconscient qui gère ça, ce serait programmer quelque chose de similaire, mais pour l'objectif désiré, quoi. Quelque chose qui se passerait vraiment de manière complètement automatique, sans qu'on ait besoin d'y penser, de se concentrer dessus.
C'est ça, bah tu vois, c'est un bon exemple sur la respiration. Parfois, on va dire aux gens qui sont stressés, respire. Mais le jour où tu es très, très stressé, même si tu penses à ça, t'as pas du tout envie de respirer comme on te l'a indiqué. Et puis, ça ne te paraît pas du tout naturel, ça paraît forcé. La plupart des gens ne le font pas. Mais si lors d'une séance d'hypnose, on apprend à la personne à le faire, mais que derrière, on fait en sorte que ça se passe tout seul le jour où elle en aura besoin, cette personne va à peine sentir ce qui est en train de se passer. Si elle le remarque, elle va juste se dire, tiens, j'ai une respiration qui est différente, qui va bien, qui me fait que je me détends, qui fait que mon corps est plus disponible. Mais elle n'aura pas du tout l'impression d'avoir fait un effort pour y arriver. Donc on a quelque chose qui est vraiment plus simple.
Eh bien, il y a quelque chose qui va intéresser beaucoup de personnes, c'est de savoir si on peut pratiquer seul l'hypnose, donc l'auto-hypnose plutôt, on devrait dire, non?
Oui, tout à fait. C'est même une pratique qui est très répandue. C'est en plus très accessible. La plupart des gens peuvent apprendre l'auto-hypnose assez naturellement. En plus, maintenant, il y a pas mal de livres, pas mal de choses même sur Internet qui existent. C'est vrai que le spectacle nous donne l'impression que l'hypnose, c'est un pouvoir sur l'autre. Mais c'est vraiment que le spectacle qui donne cette impression-là, puisque l'hypnose, c'est plutôt en fait aider les gens à comprendre leur inconscient. Donc, évidemment, un professionnel peut nous guider. C'est assez pratique parce qu'il va savoir comment, il va savoir s'adapter à nous, il va savoir nous conduire un petit peu en surmesure, mais on peut aussi apprendre à se guider soi-même. Ça prend peut-être un petit peu plus de temps au début, c'est normal, on va tâtonner un peu, on va tester au début des techniques. La première étape, c'est souvent d'apprendre aux gens à modifier leur état de conscience déjà, atteindre cet état qu'on appelle l'état d'hypnose. Pour ça, souvent, on va proposer aux personnes plusieurs expériences, parce qu'on a tous des manières un peu différentes d'accéder à cet état d'hypnose. On sait bien de tester plusieurs méthodes. Puis une fois qu'on a trouvé une ou deux méthodes qui nous plaisent vraiment, avec lesquelles on est à l'aise, on va rentrer dans cet état-là et on va apprendre à conduire cet état. Et là, il y a tout un travail en fait qui est assez passionnant, puisqu'il s'agit de comprendre nos fonctionnements inconscients et puis d'interagir avec eux. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas de la simple autosuggestion. C'est pas juste se mettre dans un état d'hypnose et se dire je vais bien ou je suis détendu ou je vais récupérer plus vite. Ça, on a pu mesurer que c'est quelque chose qui marchait pas très bien Les résultats sont assez médiocres quand on fait ça. C'est mieux que rien, mais c'est pas extraordinaire. Par contre, plutôt que faire ça, plutôt que simplement se suggérer un changement en auto-hypnose, on va rentrer dans le fonctionnement d'un comportement et travailler sur la modification de ce fonctionnement-là. C'est-à-dire qu'on va quasiment séquencer l'inconscient. Je parlais tout à l'heure de construction, de suggestion post-hypnotique. On va créer une séquence qui va ensuite se reproduire naturellement à un niveau inconscient.
D'accord.
Et on va faire en sorte qu'elle soit en accord avec le reste de nos fonctionnements, cette séquence-là. Il ne faut pas qu'elle soit artificielle. Donc, il y a plein de petites méthodes qu'on apprend pour ça, qui sont très simples, pleines de bon sens, et qui permettent aux gens de se diriger dans l'état d'hypnose.
Eh bien, pour ça, je recommande aux auditeurs ton livre, Auto-hypnose, un manuel pour votre cerveau, que j'ai lu et qui est bourré d'exercices très intéressants. Et d'ailleurs, moi, ça m'a aidé à comprendre quel était le chemin, le plus performant pour moi pour me mettre sous hypnose finalement. Et enfin, je le recommande vraiment. C'est un livre qui est très bien fait, très facile à lire en plus et plein d'exercices. Après, est-ce qu'il y a une limite par rapport à ça? Est-ce qu'en abuser, c'est mauvais? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est formé, c'est vrai que c'est attirant quand on sait s'auto-hypnotiser. C'est très séduisant comme pratique. Et on pourrait avoir envie de le faire plusieurs fois dans la journée ou d'en abuser un petit peu. Est-ce qu'il y a un risque par rapport à ça ou pas du tout?
Écoute, je ne pense pas. Tu sais, c'est vraiment un outil de connaissance de soi. C'est comme quelqu'un qui ferait 3-4 heures de méditation par jour. C'est jamais mauvais. Au contraire, ça peut faire du bien, ça peut permettre plein de choses. Ensuite, voilà, l'idée, c'est que l'hypnose, c'est un travail intérieur. Après, il y a quand même le lien à faire avec la réalité, c'est-à-dire quelqu'un qui se réfugierait complètement dans son cerveau, si ça allait jusque-là, ça serait évidemment un petit peu gênant. Mais je n'ai jamais rencontré ce cas-là. Par contre, des personnes qui sont à l'aise avec l'auto-hypnose et qui la pratiquent très régulièrement, quotidiennement, moi, c'est ce que je fais depuis pas mal de temps. Et c'est vrai que c'est toujours... Je pense que la connaissance de soi, c'est un chemin qui est assez infini. Il y a toujours des choses qu'on a envie de mieux connaître, d'améliorer, de mieux ressentir. Une fois qu'on a un outil comme ça qui nous permet d'affiner nos comportements, de développer des capacités, ça serait juste dommage de ne pas s'en servir, en fait.
Oui, c'est juste parce que vu que c'est encore un petit peu, enfin, pour pas mal de personnes, obscur, parce qu'ils ne connaissent pas, et c'est un petit peu effrayant, ils auraient pu se poser un petit peu la question de savoir si c'est bon ou pas. De rester dans cet état un petit peu trop longtemps toute la journée.
Tu sais, c'est pour ça que je le comparais à la méditation, parce qu'en fait, il y a beaucoup de points communs entre les pratiques. On pourrait presque dire que l'auto-hypnose, c'est une forme de méditation à l'occidentale. Mais tu vois, il y a des personnes qui passent leur vie à méditer, ils n'ont pas l'air malheureux. Après, c'est un chemin de vie. Mais non, je pense que voilà, la comparaison, elle est intéressante pour ça, parce que c'est vraiment... Un travail qu'on peut faire à n'importe quel moment. Tu vois, là, juste avant qu'on se parle, j'étais dans le métro et je me suis fait une petite séance d'hypnose pour penser à certaines choses que j'ai à faire en ce moment, sur des capacités comme ça que j'ai envie de continuer à travailler. C'est quelque chose qui est en plus tout terrain. On n'a pas besoin forcément d'une heure pour faire une séance d'hypnose. Ça peut se faire en quelques minutes. Donc, c'est un bel outil qui est très flexible, mais qui est à notre service. On ne doit pas se laisser contrôler par lui. Ça reste un outil.
C'est un outil, oui. C'est exactement ça. Alors, pour revenir un petit peu sur le sportif, est-ce que tu as des anecdotes de sportifs que tu as pu aider avec l'hypnose?
Alors oui, il y en a pas mal. C'est un peu venu par hasard. Au début, je n'avais pas une pratique qui était forcément dirigée vers les sportifs, mais de fil en aiguille, avec le bouche à oreille, j'ai eu pas mal de demandes sur ce domaine-là. Et à un moment donné même, c'est devenu une part importante de mon activité. Bon, il y a plusieurs types de demandes. Tu parlais tout à l'heure des retours de blessures, par exemple, pour les compétitions. Ça, c'est les premières demandes que j'ai pu avoir. Parfois, elles étaient d'ordre physique. Ça m'arrivait de travailler avec des personnes qui étaient en rééducation physique et en complément avec la rééducation mentale. Bon, surtout quand c'est des rééducations assez lourdes et qu'il y a tout un temps de récupération, il faut connaître le corps, accepter de ne pas être performant tout de suite, dépasser certaines douleurs aussi. Donc là, il y a tout un travail psychologique, on pourrait dire. Et puis après, il y a tout le travail d'aide à la performance. Je vais prendre 2-3 exemples comme ça, mais ça peut être corriger un geste, par exemple, dans certains sports. Tu sais, parfois, il y a certaines personnes qui ont pris des mauvaises habitudes.
Oui.
Ou une habitude qui est plus d'actualité. Imaginons un golfeur, par exemple, à un moment donné, il va se dire, voilà, il faudrait que je tape la balle un peu plus comme ça ou comme ça. Mais après des milliers de répétitions, changer un comportement, c'est pareil. À l'entraînement, parfois ça passe. En compétition, avec le stress, avec la pression, le réflexe prend le dessus.
Oui.
Et donc là, on peut venir corriger un geste. J'imagine que c'est la même chose sur une posture en musculation. J'imagine qu'il
C'est exactement ça, tu vois, j'allais y venir.
Ouais, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes même qui peuvent parfois avoir une pratique comme ça qui n'est pas toujours bonne pendant un temps, s'en rendre compte parce qu'il y a un problème physique, avoir besoin de corriger ça.
Oui, un mauvais
On avait donné.
placement, oui.
Ouais, voilà, exactement. On avait notamment travaillé avec des ostéopathes à un moment donné et avec quelques personnes de mon équipe pour mettre en place un module pour permettre aux ostéopathes de prescrire quelque part des suggestions comme ça post-hypnotique pour aider vraiment des sportifs à modifier leur mouvement.
D'accord.
Donc on peut travailler sur ce genre de choses. Puis après, il y a tout le mental. C'est la confiance, c'est le travail sur la durée, parce que la plupart du temps, c'est pareil. Dans un sport, c'est la régularité qui va payer. Ça m'est arrivé de travailler avec des gens qui étaient très doués, mais pas réguliers. Donc, on travaille là-dessus. Ou des personnes qui vont avoir un système de récompense négatif, un système de récompense malsain. Donc, on peut travailler sur ces systèmes-là. Et puis, il y a toutes les capacités annexes. On parlait de récupération tout à l'heure. Récupération physique, récupération mentale. Avec l'hypnose, en fait, on va permettre aux gens de se créer un contexte idéal la plupart du temps. C'est tout bête, mais avoir un bon sommeil avant une compétition, ça change tout.
Ah oui.
Et puis avoir une bonne récupération après une compétition, après un effort important, c'est ce qui va permettre de mieux s'entraîner aussi sur la durée. Donc ça fait partie des demandes les plus courantes.
D'accord. Bon, mais donc le sportif ne devrait pas passer à côté de l'hypnose, enfin, selon moi. Et c'est vrai que par rapport à la. Nous, c'est surtout la récupération. Comme tu l'expliquais tout à l'heure, suite à une blessure ou autre, parfois on peut un petit peu s'enterrer dans un comportement plutôt négatif. Et c'est vrai que c'est très très difficile à aller au-delà. Parce que finalement, tout ce qu'on nous dit, c'est que le sportif a toujours un moment où il est au top. Après, il se blesse ou il échoue ou il abandonne un petit peu pendant quelques mois, voire quelques années. Et la croyance que tout le monde a, c'est que ça sera impossible de récupérer ce niveau-là. Et ça, je pense que c'est vraiment un gros, gros point noir dans plein de carrières de sportifs, alors sportifs professionnels et amateurs, c'est qu'ils se fixent cette croyance que ce sera impossible de revenir au niveau précédent. Moi, je pense que l'hypnose peut vraiment aider de ce côté-là, enfin, au moins cette compréhension, pourquoi on a cette croyance. Est-ce que toi, par rapport à ça, tu as pu aider concrètement des gens à faire sauter cette croyance et puis récupérer vraiment une seconde jeunesse sportive, on va dire.
Ouais, on peut dire ça comme ça. Tu sais, ce qui me semble, c'est que chez beaucoup de sportifs, mais pas forcément dans du très haut niveau, hein, quelquefois aussi sur des choses plus, voilà, plus amateurs, il y a souvent un très haut niveau d'exigence, mais qui est normal puisque le sport, il passe par ça la plupart du temps. Mais ce très haut niveau d'exigence, il amène souvent une dureté avec soi. J'ai tout de suite envie d'être bon, j'ai tout de suite envie d'être au meilleur. Et cette dureté-là, elle vient contrarier un peu notre comportement inconscient qui serait plutôt à retrouver les choses un peu plus progressivement. Et bizarrement, en faisant ça, finalement, ça crée plus un frein qu'une facilité. Donc très souvent, une des premières choses qu'on fait dans ces cas-là, c'est relâcher la pression mentale. C'est vraiment ne plus être sur tout de suite le résultat absolu, mais être sur l'instant, être sur le présent, où j'en suis, quelle est la prochaine étape, comment je construis ça, comment je me sens à l'aise avec cette construction-là, comment j'évite de disperser aussi mon énergie. Donc on va vraiment recentrer dans ces axes-là. Et tu vois, c'est toujours, on revient toujours à ça avec l'hypnose, c'est que tout ça, c'est du bon sens, c'est facile de le comprendre en théorie, mais on sait tous que c'est au moment de l'appliquer qu'on a des résistances conscientes. Parce qu'on a trop d'envie, parce qu'on se met la pression, parce qu'on a des peurs, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, parce qu'il y a l'inconnu. Donc tout ça, ça submerge un peu notre conscience. Il y a des émotions qui viennent à ce moment-là, elles viennent modifier un peu nos comportements et pas toujours dans le bon sens. Donc il s'agit de retrouver un état où on remet à zéro tout ça. Dans l'état d'hypnose, il n'y a plus ces peurs-là, il n'y a plus ces résistances-là. Et on peut commencer à construire quelque chose. Donc c'est vraiment une manière de relâcher toute la pression mentale en quelque sorte.
D'accord. Et ça, ce que tu dis, ça, alors nous, enfin surtout dans mon domaine, on est très proche, enfin on est très lié à la nutrition. Souvent, il y a des problèmes par rapport à ça chez le sportif. C'est ce que tu viens de dire qui m'amène là-dessus. C'est le côté émotionnel quand on est face à la problématique finalement. Au niveau du régime, on sait très bien, nous, que si on mange mal, les performances, elles baissent. On va prendre trop de poids et on va avoir un sommeil de mauvaise qualité, etc. Mais au moment où on doit choisir ce que l'on mange, c'est vrai que si on a face à nous, je ne sais pas moi, un hamburger, c'est très difficile de résister. Et peut-être que l'hypnose serait intéressant de travailler entre ces moments où on va potentiellement être orienté vers les mauvaises choses, quoi. Dès que ça rentre dans l'émotionnel, c'est très compliqué. Et on le voit dans tous les régimes, dans beaucoup de régimes. Les personnes, souvent, elles craquent. Et quand elles commencent à craquer, c'est toute la journée après. Elles ont beaucoup de mal à résister parce qu'elles sont vraiment dans ce côté un peu euphorique où elles vont manger beaucoup et tout ça. Elles n'arrivent plus du tout à se raisonner.
C'est ça, oui. En fait, il y a souvent deux parties à l'intérieur de nous. Il y a la partie qui a l'objectif, par exemple, d'atteindre un résultat sportif. Et puis, il y a l'autre partie qui est plus liée au plaisir immédiat, qui est liée à la satisfaction d'un besoin. Et ces deux parties-là, elles sont souvent en conflit. Le problème, c'est qu'on essaye souvent de gérer toutes les choses à un niveau conscient, donc avec la volonté. Et la volonté, on va la placer que sur la partie, évidemment, qui a envie de garder son objectif et d'atteindre sa performance. Le problème, c'est que l'autre partie de nous, elle est censurée quand on fait ça. Et cette censure, elle fait que, à la moindre faille, donc un coup de stress, un petit coup de moins bien ou quelque chose comme ça, cette partie-là, elle va reprendre le dessus et quelquefois de manière très forte. Et plus elle a été censurée, je veux dire, plus c'est comme un ressort, s'il était compressé, au moment où il se détend très très fort. Et c'est ce que tu dis, souvent quand les gens craquent, ça va pas juste être un petit craquage, ça va aller vers quelque chose qui peut être assez fort. C'est ça qu'a même les régimes yo-yo, hein, dans la nutrition. L'idée en hypnose, c'est d'amener ces deux parties à communiquer entre elles, pour éviter qu'elles soient en conflit. Que celles qui désirent quelquefois satisfaire un besoin immédiat ou un plaisir, elles puissent le faire par d'autres moyens. On va essayer de la rééduquer, cette partie-là, lui montrer qu'il n'y a pas que la nourriture pour ça, qu'il y a d'autres choses, créer d'autres moyens de satisfaction, d'autres moyens de récompense. Donc on va vraiment essayer de travailler en profondeur, pas juste sur le comportement superficiel, mais sur tout ce qui est à la racine de ça.
D'accord. Ouais, donc c'est un super complément pour la pratique sportive et même alimentaire, parce que ça va avec. Et puis, comme tu disais aussi, pour le sommeil. Donc, nous, c'est les trois piliers dans le sport, hein, c'est l'entraînement, la nutrition et le sommeil, la récupération. Et si l'hypnose peut venir entre tout ça apporter encore de l'optimisation, c'est quelque chose de très bien. Moi, j'aimerais savoir où peut-on apprendre l'hypnose et finalement par quoi commencer?
Alors là, ça dépend un petit peu des objectifs que l'on a. On parlait d'auto-hypnose tout à l'heure.
Ouais, mais là,
Là,
ce sera
tu
plutôt
citais
pour
le.
ça, ouais. Ce serait plutôt pour devenir un petit peu indépendant de ce côté-là.
Voilà, là, dans ce cas-là, tu parlais du livre tout à l'heure, Auto-hypnose. C'est un livre que j'ai écrit il y a quelques temps. Puis il y a d'autres bouquins, hein, sur le sujet. Tu disais au début, moi je dirige l'Académie d'hypnose, qui est une école d'hypnose. Alors on forme d'un côté des praticiens, c'est notre principale activité, c'est-à-dire des gens qui vont être accompagnants, des coachs, des thérapeutes aussi, toutes sortes d'accompagnants, mais on a aussi des stages et des initiations à l'auto-hypnose.
D'accord.
Pour ceux que ça intéresse, c'est sur le site, il y a des week-ends qui sont proposés, des week-ends à thème, ou même des soirées auto-hypnose pour ceux qui habitent à Paris ou à Nice, par exemple. C'est vraiment des soirées pour découvrir un petit peu l'outil.
D'accord, c'est ce que vous appelez les cabinets publics, c'est ça, sur la chaîne YouTube?
Alors, les cabinets publics, c'est plus des démonstrations d'hypnose. Là,
D'accord.
c'est plus pour comprendre un peu le fonctionnement d'une séance. Les soirées auto-hypnose, il n'y en a pas beaucoup sur la chaîne YouTube. Je pense qu'à une époque, on mettait quelques extraits, mais ça fait un petit moment.
D'accord.
Mais c'est encore autre chose. Les cabinets publics sont vraiment plus sur une pratique individuelle, alors que l'auto-hypnose, c'est vraiment apprendre aux gens comment pratiquer l'auto-hypnose pour qu'ils puissent le travailler après chez eux tout seuls.
D'accord. Écoute, je pense que tu nous as donné beaucoup de réponses pour ce podcast. Je vais inviter tout le monde, s'ils veulent le retrouver, Kevin et puis toute son équipe. Alors, il y a le site, donc on va rappeler, j'ai mis les liens dans la description, mais c'est arche-formation ou arche-hypnose, c'est ça?
Arch-hypnose.com, oui. Oh, oui, c'est le
D'accord.
site de l'académie.
Ok. Après, tu as ton blog personnel, donc c'est kevinfinel.fr.
Voilà, tout simplement.
Après, la chaîne YouTube et puis le Facebook. Mais j'ai mis tous les liens dans la description, comme ça les gens pourront retrouver ça. Et puis, merci beaucoup, Kevin, de m'avoir accordé un petit peu de ton temps.
C'était un plaisir.
Et puis, si j'ai d'autres questions, peut-être que je te réinviterai et puis on pourra refaire un podcast comme ça ensemble.
Avec grand plaisir, oui.
Merci, au revoir.
Merci Théo, merci à tous et au revoir.